farcir nos amours, nos peines, nos haines, nos querelles. Pas de vacances, pas de dimanche, overbooké. Faut qu'il assure, toujours présent, à l'appel. Pourtant il aimerait se faire un peu moins prier.
Quand il descend là du ciel, ce sera pas toujours pour se marrer.
Bonjour et bienvenue dans le calendrier de l'Avent des comics, cette année en format un peu plus audio, même d'aucuns pourraient dire podcast. Pourquoi cela ? Eh bien tout simplement pour pouvoir inviter plus facilement des gens. Ce qui paraît, c'est ce qu'il faut faire en période de ces fêtes de fin d'année, être convivial et tout ça, avoir des gens. Et donc du coup, j'ai fait un peu le tour de mon carnet d'adresses et des gens que j'aime bien, et aujourd'hui j'ai décidé d'inviter Clément Pelissier. Bonjour Clément.
Salut, je suis content d'être parmi les gens que tu aimes bien.
écoute, je pense que depuis le temps tu le sais.
Certes, j'ajoute que c'est émouvant parce que c'est la première fois pour moi que je suis dans une case de calendrier de l'Avent.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et ça c'est cool.
Du coup, donc moi je te connais relativement bien, mais peut-être que les gens qui nous regardent ou nous écoutent ne te connaissent pas, je vais te laisser te présenter, tu es le mieux placé pour le faire.
Eh bien bonsoir les gens qui nous regardent ou nous écoutent, je m'appelle effectivement Clément Pelissier. Et j'ai un parcours un petit peu atypique, hein. Je suis un littéraire pur jus, je dirais. J'ai une thèse, un doctorat donc, sur les comics pour faire la version courte. La version un peu plus longue, c'est que j'ai travaillé sur les imaginaires et les intuitions de la science dans les comics. Donc thèse que j'ai soutenue en 2017 à Grenoble. Et depuis, je m'intéresse à tout ce qui est culture geek, culture pop, la BD évidemment, mais aussi beaucoup d'autres supports. J'en ai même fait un métier, une auto-entreprise, puisque je suis conférencier de l'imaginaire. Et je peux également ajouter qu'avec mon collègue Jonathan Spuoco, je m'occupe d'un podcast, d'une émission de radio que tu connais bien toi-même d'ailleurs.
Oh oui.
Parce que tu en as été un invité brillant sur Batman. Il s'agit de l'émission Pop en Stock France, qui est la cousine française de l'émission québécoise Pop en Stock sur la pop culture, donc enregistrée pour Campus Grenoble. Une émission mensuelle qui parle donc de tous les sujets de pop culture, y compris donc Batman, dont tu as fait partie.
C'est ça. Batman, mais aussi on peut citer Columbo, Kaamelott, ouais. Enfin ça va vraiment un peu partout.
Disney, Rick et Morty, ça va dans tous les recoins de la pop culture.
Et donc du coup quand j'ai cherché un petit peu qui je pouvais inviter, c'est vrai que j'ai pensé à toi et j'avais un peu envie de t'impressionner pour le coup. et j'ai essayé de trouver quelque chose qui pourrait te surprendre un petit peu, et c'est quelque chose dont j'ai moi-même entendu parler en fait seulement l'année dernière. C'est donc une petite série en fait de comic strip, donc qui était diffusée dans les journaux de l'époque, qui tout simplement parle de la firme aux deux oreilles à Disney.
Exactement, et en plus tu as tapé juste, parce que d'une part effectivement tu m'as surpris, bravo à toi. Parce que moi non plus, je ne connaissais pas ce pan-là de la maison Disney, et en plus, ça tombe tout à fait sous le sens pour des fans de comics tels que nous, puisque c'est extrêmement axé sur le crossover.
Oh oui.
Et ça, c'est cool.
C'est ça. Je suis assez content de te l'avoir fait découvrir, mais du coup, je suis un petit peu curieux. Qu'est-ce que tu as pensé donc de cette première histoire, qui est en fait une histoire qui s'appelle Peter Pan's Christmas Story, qui est sortie en fait donc dans les journaux du 28 novembre 1960 au 24 décembre. Ça tombe super bien pour Noël.
C'est ça. Eh bien, je dirais que ils ont réussi leur pari, ces messieurs. Donc, pour le coup, c'est Frank Riley qui est à l'écriture et Manuel Gonzalez qui est au dessin.
Tout à fait.
Ce que je trouve assez classe dans cette histoire, c'est que ça reprend exactement l'esprit des protagonistes principaux, protagonistes et antagonistes, puisqu'il s'agit principalement donc de Captain Crochet, donc Hook et Peter Pan. Et en fait, finalement, on est dans un scénario classique d'une joute entre les deux protagonistes, à ceci près que, crossover oblige, on va rajouter d'autres personnages. Et là, pour le coup, comme on est dans une histoire de Noël, qui de mieux que les sept nains pour camper le rôle des lutins du Père Noël? Bien sûr, ça tombe sous le sens.
C'est ça, oui, ça fait un petit peu pièce rapportée dans l'histoire, mais
Exactement, mais pour le
je
coup,
trouve
ça
que
leur va super.
ouais, je trouve que ça donne un petit goût justement d'interdit presque.
On peut dire ça comme ça, oui. Disons qu'on y, on y, je n'y aurais pas pensé de moi-même, j'avoue. Mais en fait, le crossover fonctionne. C'est une alchimie qui fonctionne. Et je crois qu'on peut déjà d'ores et déjà se dire que les auteurs ont réussi leur coup. Parce que mine de rien, le crossover, si jamais les personnages ne matchent pas entre eux, ça peut mal se passer.
Oui.
Dédicace au Mondo Universe pour ceux qui suivent un peu l'histoire.
C'est ça. Mais en tout cas, oui, c'est un comic strip qui va durer assez longtemps, donc qui va être assez régulier, mais qui donc commence avec cette petite histoire, qui finalement n'est pas super longue.
Non,
Voilà.
non, non.
Mais que du coup, on va prendre plaisir, et bien tout simplement, à raconter. Est-ce que tu veux commencer par nous situer peut-être un petit peu l'action?
Eh bien, exactement, avec grand plaisir. Alors, si vous avez revu Peter Pan récemment, comme c'est mon cas, et si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire, il est trouvable aisément sur les plateformes. Mais nous commençons à Neverland, au pays imaginaire, bien sûr. Le fameux pays où tout est permis, le fameux pays où Peter Pan gouverne en maître des enfants perdus et où finalement le temps semble n'avoir pas cours, où l'écoulement des années semble n'avoir pas cours et où on est dans une enfance perpétuelle. Et bien évidemment, l'antagoniste principal, c'est encore et toujours Crochet. Et là, Crochet, il n'est pas content du tout. Il fait
Oh
les
non.
100 pas sur son bateau. Pour la simple et bonne raison que c'est bientôt Noël. Et Crochet, il aime pas Noël. Oh que non. Et il n'a qu'un rêve, c'est de gâcher le Noël de Peter Pan, mais globalement le Noël de tout le monde.
Oui, là pour le coup, il fait un prix de gros, hein, pour le coup, vraiment.
C'est ça, c'est ça. Il est on ne peut plus grincheux et une idée va germer dans son cerveau détraqué, une idée qu'il va confier à son éternel bras droit, Monsieur Mouche, au brave et pauvre Monsieur Mouche, j'ai envie de dire, qui est à la solde de son maître et qui sait bien qu'à cette époque, eh bien, Crochet est encore plus imbuvable
Oh oui,
que d'habitude finalement.
c'est ça. Et surtout particulièrement cette année où apparemment il est encore plus imbuvable que les autres années. C'est dire à quel point il est imbuvable.
C'est ça, et même Mouche et son équipage le remarquent, c'est dire.
Et pendant ce temps-là, bah, Peter Pan, lui, se dit, c'est Noël, je suis sûr que Crochet va faire un truc. Vas-y, Clochette, va juste espionner.
Ce
Voilà.
que la petite fée silencieuse s'empresse de faire, comme elle en a l'habitude, hein, d'ailleurs. Si vous vous rappelez de votre classique, elle aime bien se glisser dans les interstices les plus secrètes du pays imaginaire, et notamment, bien évidemment, le bateau du vilain pirate, parce que cette fois, Crochet a une idée, un plan pour le moins machiavélique, un
Oh
plan
oui.
dont il est habitué, hein, n'est-ce pas? Du coup, parce qu'on va retrouver les bonnes vieilles habitudes explosives du
Oui.
capitaine, je dirais.
Puisque là, son idée, eh bien, c'est que le Père Noël, en fait, apporte des cadeaux. Mais est-ce que quelqu'un apporte des cadeaux au Père Noël? Est-ce que quelqu'un finalement lui offre quelque chose? Bah non, pas forcément. Sauf que là, Crochet veut lui apporter quelque chose. Un petit cadeau, en effet, comme tu disais, explosif.
Et qui de mieux pour l'apporter, n'est-ce pas, que Monsieur Mouche,
Ah
évidemment.
bah oui. Bah
Mais
forcément, Crochet ne va pas faire ses basses œuvres lui-même, voyons.
évidemment, ce serait indigne de sa plume, dans tous les sens du terme d'ailleurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est le voyage, dans tous les sens du terme, parce que Monsieur Mouche va y aller. Sauf que du pays imaginaire au pôle Nord, ça fait quand même une petite trotte.
Oui.
Mais c'est pas grave, parce qu'on a un canon,
C'est
n'est-ce
ça.
pas?
Et donc du coup, ça me fait penser que tous les jeux vidéo qui font du voyage par canon, en fait, avait sans doute raison, du coup.
Et c'est
Ça
ça.
fonctionne.
Même le tonneau canon semble tout à fait cohérent dans cet univers-là.
C'est ça. Et même Monsieur Mouche est très très content d'être envoyé en canon, puisque, eh bien, peut-être que Crochet sera content quand il reviendra, et peut-être même qu'il aura une médaille. Trop bien.
Il est très fier de la promotion qui lui est apportée. On peut se dire qu'il en a marre de courir après Peter Pan qui lui met des roustes en permanence. Donc là, pour le coup, ça semble être la petite mission facile.
C'est ça. Et pendant ce temps-là, eh ben, Clochette va faire son rapport à Peter Pan, qui, eh bien, du coup, découvre très rapidement un peu toute l'affaire.
Et va donc décider d'intervenir.
C'est ça.
Logique. Après tout, c'est un héros.
Mm-mm.
Et on ne peut pas nécessairement s'en prendre au Père Noël.
C'est ça. Et Monsieur Mouche aussi commence à avoir quand même quelques doutes eh bien, pendant son voyage dans les airs, puisqu'il commence à se demander « Mais au fait, comment je reviens ?»
Heureusement, le destin lui répondra plus tard.
Oui. Mais je trouve que c'est une bonne question.
Effectivement.
Et déjà, il faut voir où il arrive.
Eh ben, il se scratch littéralement dans la neige. Ce qui laisse penser qu'il a atteint sa destination, et il l'a d'autant plus atteint que les lutins sont là, mais ces lutins ont un petit air de famille,
oui.
Un petit air familier d'ailleurs.
Et même, oui, un petit air qui fait « Eh oh, eh oh, on s'en va au boulot, pour le Père Noël et pour Noël, à travers la neige et le froid, oh oh bah, ». J'essaye un peu d'improviser à la fin.
Eh bien oui, effectivement, comme, vous, comme le montre cette parfaite imitation, il s'agit bien des sept nains de Blanche-Neige. Qui de mieux placé que ces nains pour camper le rôle des lutins du Père Noël dans cette histoire? Et ça leur va très bien.
Oui, par contre, du coup, je me dis qu'ils sont que sept à bosser pour faire tout ça. Je te raconte pas les heures sup.
Ah, la... ouais, mais la magie. La
ah
magie,
oui, bah la magie, la magie, très bien.
La magie de Noël et des heures sup non payées.
Mais donc du coup, eh bien, ça donne une idée, je crois, à Monsieur Mouche.
Exactement. Et ça nous permet de nous rendre compte de deux choses. Déjà, Mouche est un peu plus malin qu'on ne pourrait le penser, quand il n'est pas dans l'ombre de son cruel maître.
Mm-hmm.
Et d'autre part, qu'il a une redoutable, une saisissante parenté avec les nains de Blanche-Neige. Puisque
oui.
Son idée, c'est de s'infiltrer dans la masse, tel un redoutable espion, tel le Solid Snake de Disney, je dirais. Mis à part qu'à défaut de carton, eh bien, il va endosser un costume de nain et l'illusion est parfaite.
C'est ça. Par contre, je suis juste triste, c'est qu'en fait, on n'essaye pas de lui trouver un vrai nom de nain, en fait.
Effectivement.
Parce que ça aurait pu être très très drôle.
Il n'est pas nommé, effectivement, il n'est jamais nommé, contrairement à ses sept comparses. En effet, c'est vrai.
Mm-mm. Et bah, pendant ce temps-là, on voit Peter Pan qui eh bien, essaye à chaque fois de se dépêcher, eh bien, pour arriver tout simplement au pôle Nord avant que ce plan machiavélique prenne place. Mais c'est quand même Monsieur Mouche qui se paye la part du lion dans cette histoire, quand même.
Exactement.
Et exactement. Ça fait plaisir.
Ah, totalement, puisque finalement, on voit bien que de personnages secondaires, eh ben, il prend le rôle principal. Mm-hmm. Et c'est Crochet, finalement, qui passe au second plan.
Oui. Surtout que le voilà arrivé maintenant, eh bien, tout simplement, devant la maison du Père Noël, carrément.
Oh, et c'est l'instant émotion. Qui d'entre nous n'a pas rêvé de rencontrer le Père Noël?
Alors, ici, on n'est que deux, donc... personne.
Voilà. C'est vrai que la question était un peu simple. Mais
c'est ça. Ah, et mince, j'avais pourtant révisé pendant des heures, tu m'avais dit que c'était simple.
Bah, tu vois, j'aime te réserver quelques surprises moi aussi.
Bah, c'est très bien.
Mais effectivement, c'est la rencontre avec le brave barbu tant attendu, et il correspond tout à fait à l'image qu'on peut se faire de lui, hein. C'est vraiment Papa Noël.
Ah bah oui.
C'est vraiment Papa Noël. Précisons, on l'a pas fait, hein, que l'histoire est en noir et blanc, s'il était besoin de le préciser, mais le fait est que le Père Noël se reconnaît avec tout son attirail, la grosse bedaine, la longue barbe et la jovialité à toute épreuve.
Oh oui, et là du coup, il est très content parce qu'il voit que eh bien, c'est l'un des sept nains, mais il n'arrive pas à vraiment savoir c'est lequel, finalement.
Et pendant ce temps-là, Monsieur Mouche commence à être un peu nerveux.
Oui. Mais il arrive quand même à donner son cadeau, finalement. Voilà,
exactement.
de la part de tous les nains. Le vil menteur.
Le fourbe. Oui. Le félon.
Parce que c'est sur qui que ça va retomber après, quand ça va péter, hein?
Ah ben, a priori, sur les responsables.
Ouais, bien sûr.
Les responsables supposés, justement.
Voilà. Et donc, du coup, donc Monsieur Mouche s'en va très très vite avant que ça explose. Mais, eh bien, c'est là que Peter Pan va finalement arriver in extremis, on va dire.
Oui, dans ce qu'on imaginerait une grande symphonie de trompettes héroïques, si on avait le son.
Oui. C'est vrai que ça manque un petit peu.
La musique manque un peu, peut-être, en effet.
C'est ça,
Mais
et
port oblige.
c'est ça. Mais du coup, on le voit qui arrive vraiment à la toute dernière minute, donc pour arrêter l'ouverture du cadeau qui aurait explosé sans cela.
Exactement.
Notamment, notons que si jamais ça aurait pété, ça aurait seulement, non seulement pris le Père Noël, mais aussi les sept nains qui étaient venus voir quand même.
Oui,
Donc
c'est vrai.
c'est plutôt bien, c'est plutôt bien. On a pu garder les sept nains aussi, c'est cool. Et donc du coup, Peter Pan récupère le cadeau, l'envoie au loin, et sur qui ça tombe?
Eh bien, sur Monsieur Mouche, bien sûr.
Eh oui. Qui du coup, eh bien, explose. Et c'est là que c'est peut-être bien d'être un personnage qui vit au pays imaginaire, finalement, puisque au lieu d'être déchiqueté en petits morceaux, eh bien, il est simplement renvoyé dans les airs, tout comme il est venu, et il espère arriver, eh bien, bien sûr, au pays imaginaire, Neverland.
Et voilà le billet de retour. Justement.
Et ça se finit donc sur une petite case quand même assez jolie, avec donc Peter Pan et la fée Clochette donc d'un côté, et donc le Père Noël et les sept nains et les reines, tout ça dans le ciel, qui souhaite à tout le monde et bien finalement un joyeux Noël.
Et oui, c'est l'ambiance et c'est tout à fait adéquat pour la période que nous vivons actuellement. Une chouette histoire, courte mais efficace.
Oui, et surtout, je trouve ça totalement étonnant, vraiment le mélange des univers. C'est pour moi ce qui en fait une vraie curiosité qui mérite finalement d'être encore plus d'être lu aujourd'hui.
Exactement, oui. Exactement. Et puis comme on le disait en plaisantant, mais c'est tout de même un sujet sérieux, le crossover, ça se fait pas comme ça.
Tout à fait.
Tous les personnages ne sont pas faits pour se rencontrer, et il se trouve que cette rencontre-là est tout à fait cohérente dans le fond.
Alors je vais pas te cacher que des rencontres futures seront peut-être un peu moins cohérentes. J'ai pu déjà te parler un petit peu avant le podcast donc d'une histoire où Ludwig von Drake, donc un canard, hein, donc
Oui.
qui est censé être un oncle de Donald, qui va en fait sauver eh bien la princesse Aurore de Maléfique dans une histoire sur la Belle au bois dormant.
Oui, donc
Voilà.
effectivement, là c'est un peu moins crédible,
C'est ça.
peut-être.
Mais parfois, on a aussi des jolies surprises, comme une histoire sur les trois petits cochons. Donc, on retrouve les trois petits cochons et le grand méchant loup. Et un personnage de Disney qui n'existe qu'en comics, qui est le petit méchant loup. Qui était un personnage de comics, en fait, tout simplement de l'âge d'or, en fait, de Disney.
D'accord, ce qui semble effectivement cohérent, quelque
Voilà.
part, donc.
Oui, c'est ça, mais c'est très cohérent, et surtout, au moment où, en fait, il apparaît dans cette histoire, c'est un personnage qui est totalement oublié.
Oui, malheureusement, ce sont les aléas des adaptations et des choix qui sont faits par les éditeurs et différents producteurs de la firme.
C'est ça. Mais c'est vrai que certains crossovers vont quand même être assez forts, franchement. On va avoir beaucoup de gros crossovers. On va avoir par exemple les Rapetou qui vont pouvoir arriver. Il va y avoir aussi par exemple en 1976 carrément un plan où va y avoir en fait les sept nains et Pinocchio qui aident en fait le Père Noël pour empêcher Capitaine Crochet, le grand méchant loup, en fait de voler les jouets. Tu vois, ça fait un gros paquet de monde au bout d'un moment.
Le Père Noël a d'ailleurs souvent ses propres histoires, hein, où il est
Oui.
vraiment la figure centrale, au-delà même des personnages de Disney qui sont convoqués. Et donc je trouve ça vraiment intéressant, d'autant que finalement la thématique des Christmas Special, qui est finalement une thématique qui sous-tend ton podcast, en fait.
Oui, on peut dire
C'est-à-dire,
ça.
eh ben finalement, tu te rends compte à quel point c'est répandu dans l'imaginaire, et c'est surtout un signe que les séries, alors c'est pas à chaque fois réussi, hein, les Christmas Special, mais
Oui.
simplement c'est quand même un signe que la série dont il est question, que ce soit comics, que ce soit série télévisée, que ce soit film, c'est la preuve donc que l'œuvre a pris suffisamment d'ampleur et d'accroche auprès du public pour mériter un épisode de Noël.
Oui.
Finalement, on peut dire ça, l'épisode de Noël se mérite quelque part.
C'est ça. Et là, encore plus, puisque pour le coup, c'est un strip en fait qui est né d'une volonté un petit peu, on peut dire, éditoriale là pour le coup, puisque l'idée c'était justement en fait à partir donc de 1960, en fait donc Frank Reilly donc qui s'occupait déjà en fait des strips habituels en fait de Disney, s'est dit qu'en fait ce serait quand même bien d'en faire un spécial Noël. Et du coup, comme on a pu le voir, on va prendre plutôt les personnages donc des dessins animés, des motion pictures, plutôt que les personnages qu'on voit d'habitude dans les comics, c'est-à-dire Mickey Mouse, Donald Duck, éventuellement Uncle Scrooge, donc l'oncle Picsou. Mais là, du coup, l'idée c'est vraiment d'aller sur ces personnages-là, tout simplement pour ne pas en fait empiéter sur les histoires habituelles en comics, justement de Donald ou de Mickey.
Ce qui permet de rappeler d'ailleurs la ligne éditoriale qui est très souvent en vogue aux États-Unis, c'est-à-dire que le statut d'auteur est moins important que le statut d'éditeur, en fait. C'est
Oui.
vraiment. C'est ce qui explique qu'on ait tant d'auteurs qui puissent se relayer sur un personnage tel que Superman, pour ne prendre que lui. C'est-à-dire qu'en fait, Superman appartient à DC et n'appartient pas à ses auteurs, en fait. Ou du moins aux auteurs qui racontent ces histoires. C'est pour ça qu'on peut avoir des histoires aussi variées et c'est pour ça qu'on peut avoir autant de licences. C'est parce que les volontés éditoriales sont très fortes et les auteurs sont quelque part au service, si on peut dire, de l'éditeur.
Oui, il y a un peu de ça. Après, il y a quand même une certaine reconnaissance au niveau des auteurs. Parce que par
Tout à
exemple,
fait.
le dessinateur de cette histoire-là, qui s'appelle
Bien
donc
sûr.
Manuel Gonzalez,
Bien sûr.
c'est en fait le dessinateur en fait du strip en fait Mickey Mouse, en fait de toutes les pages couleur en fait du dimanche. Donc c'est la page la plus en vue donc de Mickey depuis 1938. On est en 1960. Il y a
C'est vrai. Ouais. Oui.
quand même une certaine reconnaissance quand même.
Oui, mon commentaire ne visait pas à donner la toute-puissance et
Ah
l'irrespect.
oui, c'est sûr.
Mais simplement à mentionner que l'auteur et l'éditeur sont des notions un petit peu différentes de ce que nous on en comprend et on en connaît en France, par exemple. Voilà,
Oui,
c'est tout simplement
c'est sûr.
là.
Alors, malheureusement, j'ai cherché un petit peu. J'ai été fouillé un petit peu sur Index pour voir en fait si cette histoire avait été traduite en français. Malheureusement, non.
Apparemment, ce n'est pas le cas, ouais.
Ouais, c'est arrivé dans d'autres pays donc européens. Donc forcément en Italie, puisque tout ce qui est Disney est passé en Italie à un moment ou un autre, il y a une énorme base à cet endroit-là, mais aussi en Allemagne, en Finlande, aux Pays-Bas, au Portugal, enfin un peu partout, mais pas par chez nous.
Ce qui est dommage, en soi, ce serait presque un chantier à explorer.
C'est ça, mais
Même si
je crois que d'autres histoires de Noël dans le même genre, par contre, ont été publiées par chez nous. Puisque, bah oui, il y en a eu énormément. Puisque, donc, je le disais un petit peu donc, en introduction, donc c'est une tradition qui a commencé en 1960 avec cette histoire-là, et qui s'est arrêtée en 1987. Donc, c'est-à-dire que tous les ans, en fait, on avait donc une histoire en fait entre 17 et 24 pages à peu près, enfin un strip, donc bande, donc qui était publié chaque année. Et même en 87, ça s'est arrêté, mais ça a repris de 92 à 97. Voilà. Donc du coup, ce qui fait qu'en fait, si jamais tu regardes, en fait, tu peux avoir des histoires de Noël, donc de La Belle et la Bête, d'Aladin, du Roi Lion, de Pocahontas, du Bossu de Notre-Dame et même de la Petite Sirène.
Oui, la table des matières est assez étoffée, puisqu'en fait, ces comic strips dont tu parles ont été compilés
Oui.
en 2017, si je ne dis pas de bêtises,
C'est tout à fait ça.
dans un ouvrage en fait qui leur vend, donc un ouvrage en anglais. Mais mine de rien, la table des matières est effectivement assez conséquente. D'ailleurs, on termine par la petite sirène.
C'est ça, bah, tout simplement parce que c'est malheureusement le dernier.
Voilà.
C'est un peu triste, mais bon, voilà. Alors, il faut savoir qu'il manque dans cette compilation donc, qui a été faite par l'éditeur IDW, ou si jamais on l'écrit IDW, il manque une histoire. C'est une histoire, l'histoire de 1986, sans doute parce qu'elle est basée en fait sur Mélodie du Sud. Et donc Disney est toujours très très pointilleux quand il s'agit de faire des choses sur Mélodie du Sud.
Effectivement, ça peut se comprendre tout à fait. Mais tu vois, ce que je trouve très intéressant avec l'histoire de Peter Pan, c'est que Crochet dans son ensemble, et Crochet surtout dans cette posture du méchant qui veut gâcher Noël pour le plaisir d'être méchant, en fait, ça me fait complètement penser à un personnage qui est de cette époque-là également, c'est-à-dire de 1960, c'est-à-dire le Grinch, en fait. Alors nous, le Grinch, on le connaît sous les traits, si je puis dire, les traits maquillés de vert de Jim Carrey
Oui.
en 2000. On le connaît aussi pour un film d'animation qui est sorti en 2018. Et en fait, ce qu'il faut surtout savoir, pourquoi je dis que ça date vraiment des années 60, c'est qu'en fait, le Grinch est un personnage qui a été adapté d'un roman à la base du Dr. Seuss, donc qui date, lui, de 57, de 1957. Ça s'appelle tout simplement le Grincheux qui voulait voler Noël.
C'est ça.
Précisons également que Chuck Jones en a fait une adaptation qui a été d'ailleurs appréciée par l'auteur d'origine, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, parce que généralement il n'a pas aimé ses œuvres adaptées. Mais bon, avec Chuck Jones, on n'avait pas vraiment de soucis à se faire. Chuck Jones, pour la petite histoire, c'est un petit peu l'un des grands darons de Warner Bros. C'est
Oui,
celui
pour le coup, oui.
Qui a créé Ville Coyote, qui a créé un bon paquet de personnages des Looney, en fait, des Looney Tunes. Et donc, du coup, pourquoi ça m'a fait penser à ça? C'est parce que le Grinch, typiquement, c'est ça. C'est une vilaine petite créature, verdâtre, toute verte, dont le seul plaisir se résume à voler Noël parce qu'il est
Méchant.
grincheux. Ça pourrait être l'un des sept nains.
C'est ça.
Mais du coup, voilà, il aime pas Noël et donc il veut le faire savoir et il veut gâcher Noël de tout le monde. Et là, c'est exactement ce que veut faire Crochet. Donc ça m'a fait automatiquement penser à ce personnage.
C'est ça. Et pour être franc dans les autres histoires en fait qui vont suivre, cette idée du vilain qui veut détruire Noël pour détruire Noël est quelque chose qui est régulièrement réutilisé. Pas systématiquement, mais quand même assez régulièrement, il faut le dire.
Alors pour le coup, je comprends que ce soit très important dans l'imaginaire. Hein. Finalement, l'imaginaire de Noël, c'est intrinsèque à la culture populaire. Voilà, moi personnellement, l'un des films de Noël et d'Halloween en même temps qui m'avait subjugué quand j'étais gosse, bah oui, tu sais bien de quoi je
Ah
parle. Hein.
bah je
C'est
vois, oui.
Nightmare Before Christmas, L'étrange Noël de Monsieur Jack, un film qui n'est pas de Tim Burton, mais voilà. Voilà, qui n'est pas complètement de Tim Burton, mais voilà, qu'on attribue beaucoup à Tim Burton. C'était ça, en fait. Jack Skellington découvrait Noël et en voulant bien faire, met un peu le dawa. Donc, si vous ne l'avez pas vu, sachez que c'est une faute et revoyez-le si vous êtes des aficionados. En fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'autant je suis conscient que c'est une thématique récurrente et importante dans l'imaginaire, mais par contre, je t'avoue que ça fait peut-être partie des petits points que j'ai un petit peu moins aimé de cette histoire.
Ah.
Alors, pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'en fait, si tu veux, Crochet, il est entre guillemets, je vais pas dire basique, mais en fait, voilà, il est méchant, c'est l'ennemi de Peter Pan, et quelque part, il est assez stéréotypé, comme beaucoup des méchants Disney, vous pourrez me dire. Oui, mais en fait, les méchants Disney, très souvent, ils ont des buts.
Oui.
Ils ont des buts précis, et ils sont méchants dans le but d'accomplir cet objectif. Par exemple, Jafar veut devenir sultan à la place du sultan. Scar veut devenir roi à la place de Mufasa et se débarrasser de Simba, ou encore le plus, à mon sens, le plus magistral des méchants Disney, c'est Frollo, hein, du
Ah
Bossu
oui.
Notre-Dame, parce que c'est le plus humain et le plus pervers de tous,
C'est ça, bah
parce que
pour le coup après c'est du Hugo là, donc forcément
oui.
voilà.
Alors après, alors on va dévier un tout petit peu,
Vas-y.
mais en fait, je m'étais intéressé il y a très très longtemps pour un devoir de TPE, c'est te dire à quel point c'était loin dans le temps. Je m'étais intéressé un petit peu à la façon dont Disney avait adapté Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Et en fait, l'un des choix qui a été fait, justement, à la base, dans le roman de Victor Hugo, Frollo est un prêtre.
Oui.
Et en fait, les Américains ont estimé que ça pouvait être très choquant pour le public de voir un prêtre se comporter aussi mal. Ils en ont préféré faire un juge dans le dessin animé, par exemple. C'est l'une des grandes distinctions à faire entre le roman et le dessin animé. Voilà, toujours est-il que Frollo fait partie de ces méchants absolument exceptionnels parce qu'il est très humain et il est très souvent en proie au doute, d'ailleurs,
Ah
de
oui.
ce qu'il fait, et c'est un méchant absolument terrifiant et absolument génial. Revoyez le bossu de Notre-Dame, c'est génial. Et ce que je veux dire donc, on en revient hop à Peter Pan, c'est que finalement, ayant revu il n'y a pas très longtemps ces films-là, en fait, je me suis dit, bon, d'accord, il est méchant pour être méchant. Ok, et après, en fait, c'est voilà, finalement, on se dit, ouais, je veux voler Noël parce que c'est pas juste que les autres soient heureux et je veux que les gens soient malheureux.
Mmh.
Ah, on se voilà, c'est un petit caprice de ma part, mais j'aurais bien aimé que après, bon, on est sur des histoires courtes.
Ouais.
C'est déjà exceptionnel d'avoir mis une histoire captivante et cohérente parce qu'elle l'est, il faut quand même le dire, sur si peu de pages. Donc voilà, après c'est crochet, voilà, c'est
ça, et c'est crochet Disney aussi, c'est-à-dire qu'en fait crochet Disney est vraiment méchant parce que Peter Pan est devenu vraiment gentil alors qu'il l'est pas vraiment vraiment à la base aussi.
Bah en fait Disney en a fait un garnement espiègle à la rigueur.
Voilà. Alors que il y a quand même un petit côté on va dire elfe un peu à la Shakespeare qui aussi peut-être prend un petit peu les enfants et les amène dans leur endroit mystérieux où justement ils ne vont pas grandir.
Voilà, c'est ça. Bah c'est ça l'idée, c'est Peter Pan, c'est d'ailleurs on parle du syndrome de Peter Pan, c'est pas pour rien. Mm-hmm. Peter Pan, c'est vraiment cette ode à l'enfance hyper importante, hyper célébrée tout au long de l'œuvre. Peut-être aussi. Alors bon, je ne sais pas ce qu'il en est dans la suite des apparitions de Crochet. Tu pourras me le dire. Par contre, dans cette histoire-là, je trouve qu'il manque un personnage. Il manque Tic Tac.
Alors,
du
coup, c'est ça. Bah. Pour le coup, comme on rajoute encore plus de personnages à chaque fois, je te dis, il y a le grand méchant loup, il y a des choses comme ça, en fait.
Ça aurait fait un peu surenchère.
Ouais, voilà, en fait. Ils essayent vraiment de limiter à quelques personnages. Déjà, on peut voir vraiment Monsieur Mouche, on peut voir d'autres personnages aussi sur le bateau pirate, on peut voir d'autres pirates, c'est déjà...
C'est
bon, par contre, niveau enfant perdu, par contre, c'est vrai que c'est un peu chiche.
C'est vrai que, ouais, en fait, bah, disons qu'on sent vraiment que l'histoire s'est resserrée autour de l'urgence pour Peter Pan de prévenir le Père Noël et de la nécessité pour Mouche de livrer son cadeau mortel au brave Papa Noël. Alors, par contre, parmi les points très positifs qu'on peut citer, c'est que justement, Mouche, qui est considéré comme un perso rigolo, un peu bébête, et qui a vraiment le rôle de second couteau, et là, pour le coup, sans jeu de mots, hein, parce que c'est un pirate, et ben là, pour le coup, il a le rôle principal, et je trouve ça classe.
Ouais, à un point où, par exemple, on voit très très peu Peter Pan, en fait. Par contre.
Oui, bah, il est vraiment juste là pour résoudre l'affaire, en fait.
C'est ça.
Il est vraiment là pour résoudre l'affaire, et on sent vraiment... que finalement, limite, ils auraient pu appeler cette histoire Monsieur Mouche, épisode spécial, tu vois,
c'est ça, ouais, mais
c'est au centre de l'attention.
Je pense que c'est moins vendeur.
Effectivement, je pense que c'est moins vendeur dans le titre, mais le fait est que Peter Pan n'est que le prétexte à l'univers, quelque part, même si c'est lui qui sauve la situation finale. C'est vrai que je trouve intéressant de donner la place et la lumière, quelque part, en tant que personnage secondaire, d'autant que ça prouve aussi que Mouche n'est pas méchant par principe, pas comme son maître en tout cas. Il est méchant parce qu'on lui demande d'agir comme tel, mais on voit bien que devant le Père Noël, sa belle assurance se casse un petit peu la figure, qu'il est un peu timide, d'autant que je précise que le Père Noël est un petit tricheur, là pour le coup, comme le sont certainement tous les enfants, parce qu'on lui dit bien de ne pas ouvrir le cadeau avant Noël, mais lui, il est timide.
Alors là, je pense qu'en fait, c'est un effet de style en fait qui doit être fait justement par rapport à la publication en journaux, en fait. C'est ça, en fait. Si jamais tu regardes bien, en fait, en bas des pages, on te dit bien que, par exemple, le moment où il regarde ne pas ouvrir avant Noël, en fait, c'est le strip qui a été publié le 21 décembre. Et celui où il ouvre, eh bien, on arrive sur, eh bien, justement, en fait, le soir de Noël, en fait.
Eh bien, tu as tout à fait raison. Je n'avais pas pris le côté périodique en compte, effectivement. Effectivement, c'est très important.
Voilà. Après, bon, c'est un petit effet de style. Quand tu le lis dans sa première publication, là, c'est sûr que l'effet est bien sûr amoindri.
L'effet est amoindri, mais du coup, moi, ça m'a fait sourire, en fait.
Mm.
Pour moi, ça a provoqué un autre effet, différent de celui qui était attendu à la base, mais du coup, j'ai trouvé ça rigolo.
C'est vrai, c'est vrai.
Voilà, parce que c'est un petit clin d'œil au Père Noël, justement. D'autant que c'est le Père Noël qui, d'habitude, écrit ses petits mots et distribue les cadeaux. C'est assez drôle de voir Crochet se prendre pour le Père Noël. Et ça aussi, c'est une thématique hyper importante, le remplacement du Père Noël. Mmh. Voilà.
Bah, encore une fois, le Grinch, du coup, on revient à ce que tu disais, le Grinch, justement, ouais. Essaye de remplacer Noël.
Voilà, Jack, et puis pour moi, l'un des meilleurs stagiaires du Père Noël, ça restera la mort de Terry Pratchett. Voilà, si vous ne connaissez pas Terry Pratchett, foncez droit sur le disque monde. Mais c'est un, voilà, il y a une entité mythique dans le monde de Pratchett qui s'appelle le Père Porcher.
Tout à
et
fait.
Qui apporte des cadeaux aux enfants. Et il se trouve que dans l'un des romans, c'est-à-dire le Père Porcher, il se trouve que le Père Porcher disparaît et que la mort du disque monde ne peut tolérer que Noël disparaisse et qu'il est persuadé que si on ne retrouve pas à temps le Père Porcher, ça va créer quelque chose de terrible dans la mythologie des humains.
Le soleil ne se lèvera pas, pour être franc.
Le soleil ne se lèvera pas. Et donc, du coup, il décide de remplacer au pied levé le Père Porcher. Et quand la mort s'y colle, et ben forcément les conséquences sont particulières. Mais
oui.
Voilà, je vous en dirai pas plus. En tous les cas, lisez ce roman, lisez Pratchett en général, mais lisez ce roman en particulier qui est vraiment génial.
Oui, c'est un très très beau mot de fin, je trouve, de lire du Pratchett. J'approuve à 3200%.
Ça devrait terminer les phrases des gens en règle générale. Voilà.
C'est ça. Du coup, je pense qu'on a un peu dit tout ce qu'on avait à dire, en tout cas sur cette œuvre, certes petite par la taille, mais qui est assez signifiante.
Par la portée.
Voilà. Et donc, du coup, malheureusement, on va devoir commencer à se dire au revoir, malheureusement.
Eh bien, oui, mais justement, comme on a dit que ce n'est qu'un au revoir.
C'est ça, oui, bien sûr qu'on va se revoir, mais surtout, je vais essayer de faire durer encore un tout petit peu le plaisir. Je vais te laisser, en fait, un petit espace, tout simplement, pour faire un peu plus... parler un peu plus de toi et de ce que tu fais actuellement.
Alors, déjà, en rapport direct avec ce que vous venez d'entendre durant nos discussions, sachez que tu as eu du nez, mon cher, parce qu'il se trouve que Disney occupe beaucoup ma vie ces temps-ci, déjà parce que j'occupe cette période un peu longue, un peu difficile pour nous tous du confinement, en profitant des plateformes et en revoyant les anciens Disney.
Mm-hmm.
Donc je me suis fait tout un run, depuis La Petite Sirène, en passant par Merlin Enchanteur.
Ah
voilà.
Oui, pas mal.
Donc oui, c'est des classiques, hein. Il n'y a pas Taram et le Chaudron Magique, voilà, grandiose. Puis surtout avec la mort de Roger Carrel, j'ai eu absolument besoin de réentendre du Roger Carrel, qui a doublé dans beaucoup de Disney, évidemment. Mon point, c'était de dire que donc, Disney m'occupe et va m'occuper encore un peu, puisque en compagnie de Jonathan Truoco et d'invités qui vont nous venir tout droit du Québec, ou du moins phonétiquement du Québec, puisque bien évidemment l'émission sera enregistrée à distance, hein, pour des raisons évidentes dont vous doutez bien. Au-delà du sanitaire, il y a l'éloignement géographique.
Mm-hmm.
Mais du coup, nos camarades québécois vont être avec nous pour parler de Disney, justement. On enregistre samedi. Et donc, vous aurez l'émission courant décembre, le temps qu'on la post-prod. Mais on avait fait un premier volet sur Disney, sur Walt Disney, sur l'homme qui était Walter Disney. Et on va reprendre, à la suite de l'épisode précédent, on va reprendre après la mort de Walt Disney, l'avenir des studios, ce que sont devenus les studios, leur logique, leur politique, jusqu'à Marvel et la stature actuelle de Disney comme un empire globalisant, en fait.
Ça fait donc, un sacré programme, en tout cas.
Je pense qu'il y a un moment, je vais devoir arrêter l'émission parce que rien qu'à la préparation par Messenger, on est déjà dans des débats passionnés, donc ça s'annonce très très riche de contenu et d'échanges.
Ouais.
Donc je pense que nous avons tous bien hâte de cette émission. Sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts de nos collègues de Campus Grenoble sur campusgrenoble.org, et vous pouvez retrouver Pop en Stock France sur les différentes plateformes, hein, donc Twitter, Facebook et justement les podcasts sur campusgrenoble.org. Tu mettras peut-être...
Oui, je mettrai tous les liens en description, ne t'en fais pas.
C'est super. Non, mais je ne m'en faisais pas du tout, mais c'est juste que là, je ne peux pas vous les réciter.
Ah, je comprends.
dans l'URL. Simplement, voilà. Et du coup, alors pour ce qui est de ma personne, comme je vous l'ai dit, je suis conférencier de l'imaginaire. J'ai donc une page Clément Pélissier Conférence de l'imaginaire sur Twitter et Facebook. Il y a un site internet qui va finir par émerger, hein, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, ça permet de voir un petit peu ce que je fais. Et puis si vous voulez soutenir un petit coup, en ce moment, on en a bien besoin quand on est dans les milieux de la culture, de la conférence et tout, c'est un peu compliqué. Mais bon, ne perdons pas, restons focus et forts. Et enfin, ma dernière actualité. Alors malheureusement, je ne peux pas vous dire le thème sur lequel je travaille parce que bon, c'est un peu frustrant, mais voilà, je respecte la volonté de mon éditeur qui veut frapper un bon coup d'un coup quand ça sortira pour vous permettre d'avoir le livre directement. Mais en fait, je suis en train de travailler sur une œuvre assez connue de la culture pop et du coup, j'ai passé 6 mois. 6, 8 mois même quasiment à cogiter, à penser, à vivre, à respirer sur cette œuvre. Et du coup, ça y est, ça arrive, c'est en correction, ça va bientôt être dans les starting blocks. Ça devrait sortir normalement le 25 février, donc restez à l'affût. Restez à l'affût.
Bah
Je
moi
ne
je
peux
le
pas.
suis, en tout cas.
Oui, ça je n'en doute pas et je te remercie vraiment beaucoup de la fidélité que tu montres à mes petites bafouilles et autres geekeries. Et j'en profite d'ailleurs pour te dire vraiment un gros merci de m'avoir invité ce soir parce qu'en plus, ça fait un moment qu'on en parle, hein,
Oui.
de bosser ensemble. Ça fait un petit moment qu'on en parle. Tu reviens bien évidemment dans Pop en Stock quand tu veux, hein.
Ah bah
Il y a
écoute, moi tu me proposes un thème où je peux tout simplement être intéressant et il n'y a pas de souci, tout
Et
simplement.
intéressé, bien sûr, il faut aussi que le sujet
Oui.
te hype. C'est le but, nos invités doivent se faire plaisir, c'est un impératif. Mais il n'y a pas de souci, tu reviens et je serai ravi de travailler à nouveau avec toi sous toute forme que tu souhaites.
Eh bien,
Voilà.
moi je note.
Voilà. Et je n'ai, ma foi, pas grand-chose à ajouter de plus, donc je vais te laisser reprendre
Très
le fil.
bien, je reprends la balle au bon, voilà, hop, la balle au centre, c'est bon. Voilà. Oui, j'essaye de faire des petites métaphores, c'est comme
Non,
ça.
non, mais tu sais, j'ai un imaginaire visuel très développé, donc j'ai
Voilà,
vu la
c'est
petite
ça.
baballe qui a sauté dans tes mains. C'était très joli.
Voilà. Et donc, bah oui, il fallait bien arrêter un petit peu cette babale, puisque bah il est temps de ranger les affaires, en tout cas temporairement, puisque si cet épisode est terminé, le calendrier ne l'est pas encore. Donc du coup, je vous dis à demain pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et en attendant, eh bien, tout simplement, restez bien. Salut à tous!
Salut!
De vos péchés.